France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Chaque jour, les chiffres tombent qui mesurent l'impact de la Covid-19 sur nos économies et leurs conséquences sociales, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. On parle là de l'économie réelle, visible, quantifiable, en fonction des plans de relance et des secteurs d'activité. Mais il y a une autre réalité économique qui échappe largement au radar, qui concerne pourtant la planète entière et affecte les populations par centaines de millions. Il s'agit de l'économie des drogues. Cannabis, cocaïne, héroïne et autres opioïdes, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe bien sûr, partout, la pandémie a ébranlé les circuits et les marchés. En termes de production et de distribution, le crime organisé a dû adapter ses méthodes et ses réseaux pour maintenir et même augmenter son volume d'activité. Les chiffres sont difficiles à évaluer, seules les saisies permettent d'en avoir une idée, mais on parle bien de centaines de milliards d'euros. Là où la Covid-19 fait des ravages et où les États sont faibles comme au Mexique, les cartels resserrent encore leur emprise sur la société. La pandémie a-t-elle provoqué dans les pays riches une baisse de la demande ou l'a-t-elle accrue ? En Europe, les ports d'Anvers et de Rotterdam sont au cœur du système. Comment et jusqu'où les narcotrafiquants ont-ils modifié leurs habitudes? Ont-ils diversifié leurs activités? Les routes de la drogue ou des drogues à l'ère du coronavirus, c'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Marie-Geoffrey Roustide, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche à l'INSERM et membre du conseil scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. David Weinberger, c'est bien prononcé ça ?
Parfaitement, bonjour.
Bonjour, vous êtes sociologue à l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice. Gaspard Estrada, merci d'être avec nous,
bonjour.
Directeur de l'Observatoire des politiques d'Amérique latine et des Caraïbes. Et par téléphone, je remercie Thierry Vircoulon, qui est chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, et Stéphane Quéré, qui est criminologue. David Weinberger, je commence par vous. Cette économie souterraine, est-ce que on peut avoir une idée, une fourchette de ce qu'elle représente de façon chiffrée, en termes de revenus ou même en termes de volume?
Alors c'est extrêmement difficile, hein. L'ONU chiffre à environ 270 millions d'utilisateurs qui ont au moins consommé une fois de la drogue par an dans le monde, mais ce sont des chiffres très difficiles. Pourquoi ? Parce que il y a des pays où on arrive à le faire, comme en France et en Europe, mais des pays qui ont des systèmes de santé, des systèmes de monitoring de la santé publique qui sont moins développés, comme en Afrique, en Amérique latine, n'ont pas ces outils-là. Donc ce chiffre est compliqué. On a quelques chiffres en Europe et en France qui sont un peu robustes. Dans le monde, on va dire que l'estimation de la valeur commerciale des drogues illicites oscille de manière très large entre 150 milliards et 650 milliards selon les estimations. Je pencherai plus vers la fourchette basse de cette estimation, mais tout ça reste très hypothétique.
Et ça dépend, j'imagine, de la proximité par rapport au marché de consommation, la valeur elle-même de la marchandise, si j'ose dire.
Voilà, il y a et souvent des estimations utilisent les prix de vente au détail qui sont identifiés aux États-Unis, en Europe, qui sont des prix élevés. Et on sait qu'en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, le consommateur ne va pas payer sa drogue le même prix pour des raisons de différence de pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que souvent, ces estimations sont surestimées.
Quelles sont les grandes familles, si j'ose dire, de produits
Il y a quatre grandes familles, vous l'avez dit, le cannabis qui est de loin la drogue la plus consommée et donc la plus trafiquée, la cocaïne qui est en pleine...
Donc le cannabis c'est à partir donc du haschich et les zones de production, enfin il y en a tout près de chez nous, à commencer par le Maroc bien évidemment.
Oui, alors c'est surtout l'herbe de cannabis qui est majoritairement consommée. Le haschich, en fait, c'est une particularité européenne et d'ailleurs même, je dirais, du sud de l'Europe. L'herbe de cannabis, c'est ce qui se consomme le plus, mais le haschich, qui est en fait une transformation de l'herbe et qui, elle, provient de trois zones principales qui sont le Maroc, l'Afghanistan et puis le Liban, la Syrie, la plaine de la Bekaa, même si ce haschich est désormais beaucoup plus rare.
La cocaïne, bien évidemment.
La cocaïne qui explose, hein, la production, la consommation explose en Europe, aux États-Unis elle revient, et on voit des pays émergents, des zones émergentes comme l'Asie, l'Amérique latine qui sont devenus de gros consommateurs de produits de la cocaïne.
Et l'épicentre de la production, là, c'est l'Amérique latine.
C'est ça, puisque la cocaïne se distingue des autres drogues, puisqu'elle est consommée, elle est produite, excusez-moi, dans trois pays quasi exclusivement, qui sont la Colombie, le Pérou et la Bolivie, et selon les années, il y en a un qui produit plus que les autres, mais ce sont ces trois pays qui produisent la cocaïne pour tout le monde entier.
L'héroïne, là, c'est d'abord l'Afghanistan.
L'héroïne, c'est l'Afghanistan, environ à 80% maintenant. Auparavant, c'était la Birmanie, mais qui a vraiment chuté, qui reste une zone de production de l'héroïne, mais beaucoup plus faible. Et puis, on en parlera aussi, l'Amérique latine, avec principalement le Mexique, mais aussi la Colombie, qui produit de l'héroïne.
Et alors, il y a les drogues de synthèse qui peuvent être fabriquées un peu n'importe où, ou est-ce que là aussi, il y a une localisation ?
Alors, c'est ça. Le grand changement en géopolitique des drogues, ce sont les drogues de synthèse, puisqu'effectivement, elles peuvent être produites partout en laboratoire. Ceci dit, on voit des pays qui émergent comme des gros producteurs des drogues de synthèse. En premier lieu, la Chine. En deuxième lieu, l'Europe et notamment les Pays-Bas, mais aussi la République tchèque. Et puis, on voit aussi des zones qui sont apparues, notamment le Liban et la Syrie, avec ce qu'on appelle le captagon, qui en fait est une amphétamine de mauvaise qualité.
Et on a même vu d'ailleurs qu'un cousin du dictateur syrien, avec lequel il est manifestement en dispute, serait... l'un des gros exportateurs de captagon. Il y a eu, je crois, une saisie de captagon importante pendant l'été en France.
Tout à fait. Alors, le serait est important puisque les preuves manquent, en fait, et puis les jugements le manquent. Mais effectivement, ouais. Cette économie de captagon peut jouer un rôle relativement significatif dans la géopolitique locale. Et il peut y avoir des groupes politiques qui peuvent être, financés pour partie par cette activité du
ou qu'ils le sont carrément. Marie-Geoffrey Roustine, vous avez coordonné une étude qui s'appelle le Global Drug Survey, qui est la première enquête internationale sur les conséquences de la pandémie auprès des consommateurs de drogue. Donc ça, c'est tout à fait spectaculaire, parce que on voit qu'en fait, ces habitudes de consommation n'ont semble-t-il pas tellement varié, en tout cas en France.
Tout à fait. En fait, la Global Drug Survey, on la réalise tous les ans. Mais quand le Covid est arrivé, on a décidé de mettre en place, entre avril et juin, et la collecte a démarré en mai, une enquête spécifique sur l'impact du Covid sur les pratiques des consommateurs et également sur la question de l'approvisionnement et des marchés. Et en fait, ce qui ressort, c'est que en France, en tout cas, les usagers se sont très bien adaptés. Et on n'observe pas, par exemple, d'augmentation ou de diminution de la consommation pour le cannabis. La consommation est restée plutôt stable. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les personnes se sont mises à consommer plutôt de l'herbe et l'autoculture a très bien résisté.
Le circuit court, si je peux dire.
Le circuit court, voilà. Ouais. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement en France. Donc la France, au niveau de la Global Drug Survey, fait partie des pays qui a eu le plus de problèmes d'approvisionnement vis-à-vis du cannabis, des prix qui ont augmenté. Mais par contre, ce qui est très étonnant, une des spécificités françaises pendant le Covid, c'est que c'est un des rares pays pour lesquels il y a eu pas de baisse de la qualité des produits. Alors que dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, l'Allemagne, il y a eu des baisses dans la qualité des produits.
Et pourquoi cette qualité France, si j'ose dire?
Alors, pour le moment, on ne parvient pas à l'expliquer avec les données quantitatives. Et on va faire des entretiens pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette question de la qualité. Par contre, sur la question de l'approvisionnement, une des hypothèses sur le fait que l'approvisionnement aurait été un petit peu plus compliqué en cannabis, par exemple, que dans d'autres pays. Les Pays-Bas et les États-Unis, par exemple, n'ont pas eu du tout de problème d'approvisionnement vis-à-vis du cannabis parce qu'il y a des marchés légaux qui existent.
Alors que il y en a d'ailleurs en Suisse, en Belgique. Enfin, alors, il n'y a qu'en France où là, on demande maintenant aux policiers de dresser des constats et de signer, en quelque sorte, de prescrire, si j'ose dire, des amendes.
Donc la France est totalement à contre-courant du mouvement international sur la question du cannabis, puisqu'on a une des politiques les plus répressives d'Europe, le niveau de consommation le plus haut chez les jeunes, et ça va complètement à l'encontre du mouvement international. Un des résultats importants de la Global Drug Survey, et qui montre que les usagers sont bien à l'adapter, c'est qu'on a observé par contre une diminution de la cocaïne et de l'ecstasy. Ça a été observé dans tous les pays et de manière particulièrement importante en France, parce que les personnes interrogées nous disaient qu'elles n'avaient pas du tout envie de consommer seules chez eux des produits qui sont des produits qu'on consomme dans des lieux de sociabilité comme les bars ou les festivals qui étaient fermés.
Et est-ce qu'il y a eu un déplacement vers toute une famille de médicaments en particulier qui, paraît-il, procure des sensations de s'échapper à ce qui était pour un certain nombre de gens et surtout pour un certain nombre d'habitués de ces drogues pendant le confinement en particulier des circonstances difficile à supporter.
Alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ce qu'on observe en France, là encore, c'est une spécificité française, c'est que la France est, avec le Brésil, le pays pour lequel on a observé la plus grosse augmentation de benzodiazépines. Là encore, ce qu'on voit, c'est que le marché des drogues prescrites ou des médicaments détournés a bien... c'est poursuivi. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont obligatoirement compensé, parce qu'un des résultats aussi intéressants pour la France... c'est que les Français font partie de ceux qui disent avoir le mieux supporté la pandémie au niveau de la Global Drug Survey. Tout comme les Australiens, par exemple. Les Français, les Australiens et les Allemands ont déclaré, en tout cas chez les usagers de drogue, avoir plutôt bien...
Voilà, il faut bien préciser que vous ne parlez que des
usagers
de drogue.
Oui, voilà. Et alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'hypothèse que je fais, c'est que le Covid a révélé les vulnérabilités déjà existantes dans les pays. Et en fait, que ce soit en France ou en Allemagne, par exemple, ou en Australie, on a des états sociaux qui sont forts et qui ont pu mettre en place de l'accès à de la réduction des risques, de l'accès au traitement de substitution aux opiacés pour les usagers, par exemple, qui avaient des difficultés à se procurer de l'héroïne. Alors que dans des pays comme les États-Unis, où l'état social est totalement absent, là ça a été une catastrophe avec une augmentation des overdoses par exemple.
Un mot encore sur la comparaison avec l'Allemagne, parce qu'on a beaucoup fait, et à juste titre, sur la gestion même de la pandémie. Quelle est la comparaison en ce qui concerne le comportement des usagers de drogue ?
Alors, en fait, en Allemagne, ce qu'on a pu observer, c'est des tendances assez équivalentes à ce qu'on a observé en France, c'est-à-dire une consommation de cocaïne et d'ecstasy en baisse. Par contre, les Allemands ont été confrontés à une moins grande pénurie vis-à-vis du cannabis que les Français. Et ça fait également partie des pays où les usagers de drogue ont bien supporté, ont mieux supporté
voilà,
que dans d'autres
pays. Une meilleure organisation de la distribution.
Exactement, de la distribution du cannabis et puis une proportion certainement plus importante en Allemagne de personnes qui pratiquent l'autoculture et donc qui pouvaient s'approvisionner en cannabis pendant la pandémie.
Sur leur terrasse, oui. Stéphane Quéré, merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes criminologue et vous vous êtes intéressé en particulier au rôle joué par les grands ports en Europe, à commencer par Anvers en Belgique et Rotterdam aux Pays-Bas. Ces deux ports qui sont très proches géographiquement, sont-ils véritablement au cœur du système de la distribution de diverses familles de drogues sur notre continent ?
Alors, ces deux ports-là précisément, mais aussi l'ensemble des ports européens, que ce soit, on va parler de Varna sur la mer Noire, de Gioia Tauro en Calabre, de Hambourg en Allemagne, des ports espagnols, du port de Liverpool, l'ensemble des ports européens sont touchés par le trafic de conteneurs, c'est-à-dire des importations géantes, notamment de cocaïne, mais pas seulement. Donc on a tous les ports européens sont touchés, mais y compris celui du Havre d'ailleurs, mais particulièrement ceux de, en effet, les ports belges et néerlandais.
Quels sont les réseaux ou les gangs ou les mafias qui dominent l'activité illicite, bien évidemment, de ces ports ?
Alors, dans ces deux ports-là, Anvers et Rotterdam, c'est essentiellement, alors c'est pas vraiment une mafia au sens strict du terme, mais ce qu'on appelle la mocro-mafia, c'est-à-dire la pègre d'origine marocaine. Donc, ce sont des jeunes néerlandais ou belges d'origine marocaine qui ont grandi dans ces deux pays-là et qui servent en fait de facilitateurs entre, on va dire, le monde des dockers corrompus des ports et les autres, à peu près toutes les autres mafias européennes, que ce soit les Calabrais, les Bosniaques, etc., etc.
Et avec des méthodes d'une grande violence.
Avec des méthodes d'une grande violence, c'est-à-dire il y a parfois de la concurrence, donc il y a parfois des vols de stupéfiants, donc bizarrement ils sont plutôt violents et ils répondent assez rapidement à ce genre de malhonnêteté entre eux. Donc il y a eu des séries de règlements de compte, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas et même au Maroc et en Espagne, dans ce cas de vol de cocaïne notamment. Il y a aussi des intimidations assez régulières, notamment à Anvers, à coups de coups de feu contre des voitures ou des façades d'immeubles, ou des jets de grenades ou des dépôts d'explosifs. À noter aussi, par exemple, aux Pays-Bas, il y a eu en 2018 deux attaques contre des groupes de presse organisés visiblement par ce qu'on appelle donc la mocro-mafia. Il y a eu une attaque à la voiture Bélier qui a été ensuite incendiée, et même une attaque au lance-roquettes. Donc c'était de nuit, donc c'était clairement des intimidations, mais voilà, les groupes de presse sont aussi visés.
Pour empêcher donc des enquêtes ces milieux
particuliers. Tout à fait, ils travaillaient via des enquêtes sur le sujet. Oui.
Alors on comprend que le transport par conteneur a été celui qui a été le moins interrompu par la pandémie, même s'il a sans doute été ralenti. Donc, dans des ports aussi énormes que ceux-là, quelles sont les différentes étapes, si j'ose dire, entre le moment où un porte-container arrive à Anvers, à Rotterdam, au Havre ou ailleurs, et le moment où les colis, les paquets, enfin la cargaison est distribuée aux commanditaires?
Il y a deux gros types d'importations possibles. Soit on dissimule la cargaison dans des faux planchers de conteneurs, dans le système réfrigéré des conteneurs, ou même dans la cargaison en tant que telle, des machines-outils par exemple. Donc ça, le conteneur arrive à destination à l'entreprise finale. En général, c'est une entreprise complice ou montée spécifiquement. Et il y a une technique beaucoup plus simple qui s'appelle le rip-off. C'est-à-dire qu'on ouvre, en Amérique du Sud, on ouvre les conteneurs, on place des sacs, même c'est pas dissimulé, donc à l'avant du conteneur, facilement récupérable, on referme le conteneur et on l'envoie. Donc là, il faut évidemment de la corruption de dockers sur place dans les grands ports sud-américains, Santos au Brésil, Guayaquil en Équateur, Callao au Pérou, par exemple. Et on les envoie en Europe. Et là, évidemment, il faut à nouveau de la corruption de dockers pour récupérer les marchandises et à faire sortir donc les sacs de sport en général, et faire sortir plusieurs centaines de kilos de cocaïne par à chaque fois au port d'arrivée, et on les remet donc aux intermédiaires, on va appeler ça comme ça, comme la mocro-mafia, qui va après dispatcher le produit aux Calabrais, aux Turcs, etc., etc.
Puisqu'on parle de cocaïne, Gaspard Estrada, je rappelle que vous dirigez l'Observatoire des politiques d'Amérique latine et des Caraïbes, et c'est évidemment dans cette partie du monde que ça se passe. Autant la production, la transformation, l'expédition. Donc, quels sont les pays et quelles sont les grandes organisations qui dominent ces marchés?
Alors, en ce qui concerne la cocaïne, ça a déjà été dit. Je pense que aujourd'hui, en Amérique latine, on assiste surtout, bon, c'est pas un phénomène nouveau, c'est surtout les cartels mexicains qui domine le transport et la vente des drogues dans le principal marché, c'est-à-dire les États-Unis.
Parce qu'il y a un atout géographique. Enfin, le Mexique est une espèce de corridor par lequel passent les productions de Colombie, du Pérou, enfin de toutes les autres régions favorables à ce genre de pratique.
Absolument, et ce n'était pas le cas dans les années 80. Dans les années 80, c'était plutôt les cartels colombiens qui, eux, avaient le contrôle justement de la production, de la vente, de la distribution. Mais malheureusement, il y a eu une loi en quelque sorte du marché qui fait que les Mexicains étaient plus près en fait du point de vente final, et donc ils ont contenu en fait de leur place dans ce qu'on pourrait appeler le circuit économique de la vente des drogues. Ils étaient plus avantagés que les cartels colombiens, et c'est ce qui leur a permis d'avoir une force de frappe financière bien plus importante, de aussi un réseau de soutien politique plus important au Mexique et aux États-Unis, ce qui leur a permis de prendre le contrôle, prendre le dessus sur les cartels colombiens, même s'il faut bien avoir que tant au Mexique qu'en Colombie, on assiste depuis les années 90 et en Colombie et surtout les années 2000 à une fragmentation des cartels. Dans les années 80, on parlait de grands cartels, le cartel de Medellín, le cartel de Cali. Au Mexique, c'était le cartel du Golfe. Et il y a eu par la suite une volonté du gouvernement mexicain, mais qui est en fait une politique venue des États-Unis, qui visait à fragmenter, surtout en visant les têtes de ces cartels, ce qui a contribué en fait à diminuer l'espérance de vie des narcotrafiquants donc à augmenter la violence au sein des cartels et entre les cartels.
Il faut d'ailleurs rappeler que pour les amateurs de séries, il y a des séries extraordinaires sur ces personnages qui sont d'ailleurs glorifiés souvent. Et où on insiste aussi sur l'emprise sociale. Enfin, non seulement ils deviennent des héros et parfois des bienfaiteurs, plus ou moins douteux, mais réels pour dans un environnement extrêmement pauvre. Et c'est ce qu'on voit en particulier au Mexique ces temps-ci.
Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Je pense que cela vient à point nommé, puisque je pense qu'il y a un autre élément entre les années 80 et 90 et ce qu'on voit depuis début des années 2000 et surtout aujourd'hui, c'est comment il y a eu aussi une évolution dans ce qu'on pourrait appeler le business model des cartels, notamment au Mexique. Compte tenu de cette politique qui a été mise en œuvre par des gouvernements de droite comme de gauche aujourd'hui, les cartels ne sont plus uniquement des cartels qui visent à acheminer et à vendre des drogues aux États-Unis. Elles ont multiplié leurs activités pour renforcer leur emprise sur les territoires, pour diversifier leurs sources de revenus.
Et donc depuis la culture d'avocat, le fruit. Mais également, une région entière du Mexique, la culture d'avocat est aux mains de l'un des cartels.
Culture d'avocat, la production de viande, y compris certaines universités privées seraient financées par les cartels, puisque ces cartels ont constamment besoin de laver l'argent et d'injecter cet argent dans l'économie légale. Et c'est pour ça qu'il y a, en fait, en Amérique latine, et notamment dans ces pays tels que le Mexique ou la Colombie, mais aussi les pays d'Amérique centrale, une porosité très grande entre ce qui est légal et ce qui est illégal, ce qui rend d'autant plus difficile de combattre, en fait, ces mécanismes illégaux, puisque c'est l'ensemble de l'économie qui est de fait irriguée par l'argent des cartels, et ce qui rend beaucoup plus difficile de combattre la corruption, non seulement celle des délinquants, mais aussi la corruption au niveau politique, puisque tout cela suppose d'avoir des réseaux de protection politique au plus haut niveau.
Et on voit d'ailleurs au Mexique, où le président López Obrador, surnommé AMLO, d'après les initiales de son nom, était arrivé en disant « Nous allons lutter contre la corruption et d'ailleurs l'armée ne s'en occupera plus ». Et on voit, plus d'un an plus tard, qu'au contraire, il y a toujours la militarisation d'une lutte largement inefficace contre les cartels de la drogue.
Exactement, on assiste véritablement à une vraie continuité des politiques publiques, à mon sens, erronées dans la lutte contre le crime organisé au Mexique, avec une militarisation toujours plus croissante des activités de répression et de lutte contre le crime organisé, quelque chose qui s'est révélé totalement inefficace, puisque dès les années 90, on assiste à des cas de corruption au sein des élites militaires, avec toujours une velléité de créer de nouvelles institutions qui seraient, elles, seraient pures et qui seraient à l'abri de la corruption, des agences qui, in fine, sont infiltrées par les cartels, ce qui donne pied donc à une création de nouvelles institutions, et in fine, c'est une histoire qui se répète malheureusement.
On voit aussi que la pandémie, qui continue de sévir de façon extrêmement brutale dans tous ces pays, a quand même contraint les cartels à changer un tout petit peu leur manière de faire.
Sans aucun doute. D'ailleurs, ce n'est pas l'exclusivité de l'Amérique latine, on l'a déjà évoqué, c'est également le cas en Europe et j'imagine ailleurs. Les cartels se sont adaptés aux circonstances du moment, à la diminution des flux internationaux, à un moment aussi à une certaine fermeture des frontières entre le Mexique et les États-Unis, à une difficulté d'approvisionnement en ce qui concerne des matières premières pour pouvoir transformer certaines matières premières pour en faire des drogues synthétiques. Et donc, les cartels ont dû s'adapter. Tout d'abord, il y a eu une diminution en fait, du niveau de pureté de certains produits de drogues synthétiques et aussi une évolution dans les méthodes d'acheminement des drogues aux États-Unis. D'autre part, il y a eu aussi une volonté de renforcer l'emprise des cartels sur les territoires, notamment en faisant des actes d'assistance sociale pour
la distribution de nourriture, soutien, enfin ce qu'on voit aussi d'ailleurs en Italie du Sud et,
bien sûr,
et en Sicile.
Où... Un remplacement de l'État par les cartels et aussi une volonté publique d'afficher l'emprise des cartels sur les territoires. C'est une multiplication de vidéos très très dure, de démonstration d'un rapport de force en faveur des cartels et dans un contexte sécuritaire très tendu. Le Mexique, au premier semestre 2020, a vécu l'année la plus violente de son histoire, le premier semestre le plus violent de son histoire. Et donc, de ce point de vue-là, on assiste, oui, à un échec de cette politique, de la continuité des politiques publiques de lutte contre la drogue.
Puisqu'on est dans les flux de cocaïne, restons-y avec vous, Thierry Vircoulon. Bonjour et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Centrafrique subsaharienne à l'Institut français des relations internationales. La cocaïne concerne le continent africain sur l'ouest, sur les côtes et les pays qui contrôlent ces trafics et redistribuent la cocaïne en direction de l'Europe.
Oui, l'Afrique de l'Ouest est devenue depuis 15-20 ans maintenant une vraie plaque tournante du trafic de cocaïne entre la zone de production en Amérique du Sud qui a été désignée tout à l'heure et puis le marché de consommation européen. Avec un effet qui est que maintenant la consommation n'est plus simplement, le marché n'est plus simplement européen, mais on voit aussi progresser un marché de consommation de cocaïne et des produits dérivés de la cocaïne en Afrique subsaharienne.
Quel est le pays africain qui domine le marché de la cocaïne ou la redistribution des flux, si j'ose dire, de cocaïne?
On a beaucoup parlé au début de cette route par l'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup parlé de la Guinée-Bissau comme étant le premier narco-État africain et qui jouait donc un rôle de transit parce qu'il y a un archipel près de la côte de Guinée-Bissau où il y a de très nombreuses îles et du coup les bateaux venaient d'Amérique du Sud et pouvaient transporter leur cargaison dans ces îles et la faire changer de main et après la faire partir vers l'Europe à la fois par une voie terrestre et par aussi une voie maritime. Mais il y a eu donc la Guinée-Bissau a été rapidement identifiée comme un état de transit important. il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, et du coup, le trafic s'est après diversifié vers d'autres États, vers le Sénégal et vers d'autres États côtiers. Et maintenant, on peut dire que dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest côtier, mais aussi à l'intérieur, parce qu'il y a une voie terrestre par le Sahara, il y a des réseaux de trafic de cocaïne.
Le Sahara, justement, jusqu'à quel point est-ce que le trafic alimente les mouvements islamistes dans cette immense région ?
Bah, le trafic a alimenté tout le monde, si je puis dire. Dans le nord du Mali, avant même qu'il y ait le problème djihadiste, hein, ou en tout cas qu'il y ait l'attaque des djihadistes contre le gouvernement malien, on savait déjà que c'était une zone où transitait beaucoup de drogue, et ces routes de trafic sont organisées par des consortiums en quelque sorte, où on retrouve aussi bien des groupes armés djihadistes ou pas djihadistes, des forces de sécurité nationales et puis des autorités locales ou nationales. Et donc c'est vraiment en fait des sortes de consortiums. Et par exemple, il était de notoriété publique dans les années 2010-2012 que des hauts gradés de l'état-major malien percevaient des fonds sur le trafic de drogue qui passait par le nord Mali.
Quels sont les mafias ou les réseaux ou les gangs les plus actifs dans cette partie-là du sous-continent ?
Alors les Nigérians jouent un rôle très 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 important parce que la mafia nigériane a maintenant construit des ramifications internationales. Ils sont très présents en Amérique du Sud et notamment au Brésil, où ils jouent vraiment un rôle important justement dans le transfert de la drogue de l'Amérique du Sud sur l'Afrique de l'Ouest. On voit aussi des trafiquants nigérians qui sont arrêtés en Extrême-Orient, etc. Et donc c'est compte tenu de la toile mondiale que constitue la diaspora nigériane, elle joue un rôle très important dans le trafic à partir de l'Afrique de l'Ouest. Et après, évidemment, il faut que ce trafic passe par des mains locales. Donc il y a d'autres petites mafias, si je puis dire, mais la grande mafia qui domine, c'est la mafia nigériane. Et avec d'ailleurs des investissements dans les drogues de synthèse, puisque maintenant, en Afrique de l'Ouest, il n'y a plus simplement ce problème de cocaïne et de plaque tournante de la cocaïne, mais on voit de plus en plus apparaître des laboratoires qui produisent de la méthamphétamine. J'ai toujours du mal à dire ce mot.
Oui, méthamphétamine.
Méthamphétamine.
Voilà, qui est une drogue de synthèse. Et on voit maintenant apparaître en Afrique des laboratoires.
Gaspard Estrada, précisément, il y a aussi, évidemment, il y a énormément de laboratoires en Amérique centrale et en Amérique latine au sens large. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. La production a été ralentie parce qu'ils n'arrivaient plus à importer des molécules dont ils avaient besoin, des molécules qui venaient d'où ? Qui venaient de Chine et de Wuhan en particulier, c'est-à-dire la ville d'origine, si j'ose dire. Pour ne pas parler comme Donald Trump, enfin, quand même, la zone où a été révélée en premier le nouveau coronavirus.
Absolument, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ils ont dû donc diminuer la qualité des produits qui étaient fabriqués. C'est pas la première fois que cela a lieu lorsque la politique de lutte contre les drogues, notamment dans les années 80 et 90, était certaines mesures efficaces, puisqu'il y avait en fait une concurrence entre la DEA et la CIA pour cerner certains cartels mexicains. Ces cartels, face justement à cette pression étatique, avaient dû faire appel justement à cette même stratégie, c'est-à-dire à diminuer le nombre de composants ou à substituer certains ingrédients qui étaient importés par des produits locaux, mais de moindre qualité, et ce qui contribuait à rendre ces produits encore plus dangereux pour la santé, puisqu'ils faisaient appel à des produits qui étaient vraiment toxiques pour la santé des personnes.
David Weinberger, justement en Asie, l'Asie est non seulement un producteur de molécules diverses et variées et de médicaments. Hein. On s'en est aperçu pendant la pandémie. La Chine et l'Inde, premiers producteurs de toutes sortes de médicaments de base. Et on s'est aperçu de ces problèmes de dépendance à ce moment-là. C'est aussi un marché de consommation maintenant.
Oui, alors historiquement, ça a toujours été un marché de consommation, notamment quand on pense aux fumeries d'opium qui ont alimenté notamment la littérature et nos imaginaires, mais qui existent depuis très longtemps. Le cannabis aussi est présent depuis très longtemps en Asie. La nouveauté réside dans les drogues de synthèse et notamment la méthamphétamine, qui est souvent appelée là-bas le yaba, avec des zones de production extrêmement importantes et qui aujourd'hui font des ravages en Asie du Sud-Est. Et
puis les zones de production où ?
Alors les zones de production, c'est plutôt l'Indonésie et toute la zone autour de cette zone-là. Mais par exemple, en Thaïlande, la méthamphétamine fait des ravages. Un chercheur de Thaïlande me disait qu'aujourd'hui, les consommateurs ne consomment plus du tout d'héroïne, mais sont tous passés à la méthamphétamine, une méthamphétamine de très mauvaise qualité.
Alors, on reste en Asie, mais on va plus vers l'Asie mineure. L'Afghanistan, 80% de la production d'héroïne.
C'est ça. Le gros de la production, c'est l'Afghanistan, avec trois routes qui ont... Et là, on a vu des évolutions pendant le confinement et l'épidémie de Covid. La route principale, surtout pour l'Europe, c'est la route dite des Balkans, qui s'est un peu asséchée, notamment au regard des contrôles qui ont été mis en place dans les pays de l'Est européen.
Des contrôles pour les migrations, d'ailleurs, pour les mouvements migratoires.
Tout à fait. C'était
même avant la pandémie.
Effectivement, avec des grosses agences européennes comme Frontex qui travaillent beaucoup sur les migrants, mais qui se diversifie aussi sur la lutte anti-drogue. Et puis, on a vu une augmentation, en fait, un transfert des voies terrestres qui a aussi asséché la route du Nord qui passait vers la Russie, vers le maritime, moins contrôlé, surtout le maritime secondaire, parce qu'on a parlé avec Monsieur Quéré des gros transports de marchandises qui passent par conteneurs, mais il y a aussi des petits bateaux qui sont utilisés.
Et notamment vers Dubaï.
Vers Dubaï et vers l'Iran.
Les boutres vont.
C'est ça qui.
Assez Dubaï tranquillement, qui... ils ne sont pas repérés par les radars en particulier.
Alors, ceux-là, beaucoup moins que les gros transporteurs qui, eux, subissent des contrôles dans les gros ports, et notamment Dubaï, qui est un hub, je dirais, de la région. Mais on a vu des grosses saisies en Iran, ce qui est très étonnant, hein, plusieurs dizaines de tonnes d'opium, plusieurs tonnes d'héroïne pendant la Covid-19. Et cette héroïne passerait par des nouvelles routes, entre guillemets, qui seraient les routes qui passent par la mer Noire et aussi par la voie maritime et qui peuvent intégrer l'Europe, notamment via l'Ukraine.
Thierry Vercoulon, je retourne vers vous, c'est-à-dire vers l'Afrique, mais cette fois, s'agissant de l'héroïne, c'est l'Afrique de l'Est qui est concernée, avec de nouvelles routes côtières et qui concernent prioritairement le Kenya.
Oui, depuis à peu près 10 ans, la côte orientale de l'Afrique est devenue la côte de l'héroïne. Alors ça va de la Somalie jusqu'au Mozambique, où le trafic dont on vient juste de parler, une partie de ce trafic, donc la production d'héroïne étant en Afghanistan, va aussi sur et dirigé aussi vers la côte orientale de l'Afrique. On estime qu'il y a entre 20 et 40 tonnes par an d'héroïne qui vont dans cette direction pour là aussi aller sur le marché sud-africain et mais aussi en grande partie être après redispatché par voie maritime et peut-être aussi par voie aérienne vers les marchés européens et américains. Et là aussi, comme en Afrique de l'Ouest, on voit se développer, en plus du transit, des marchés locaux de consommation d'héroïne qui progressent considérablement. Il y a eu une étude récente qui disait qu'il y avait environ 3% de la population de la ville de Mombasa, qui est le principal port au Kenya, qui avait déjà consommé de l'héroïne. Et donc on voit qu'il y a là un marché qui est croissant. Et on voit aussi maintenant des arrestations de seigneurs de la drogue dans ces pays, au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, avec des connexions internationales. Là, au mois d'avril, un trafiquant brésilien du PCC, qui est une des grandes organisations criminelles brésiliennes, a été arrêté à Maputo, au Mozambique, dans le cadre d'un réseau de trafic de stupéfiants entre le Brésil et le Mozambique. Donc on voit que c'est des ramifications qui sont vraiment de plus en plus étendues sur l'Afrique, et avec là aussi des phénomènes mafieux assez typiques, et l'achat de protection politique et policière.
L'Afrique du Sud est à la fois un marché régional important en termes de consommation et une plaque tournante en termes de redistribution d'héroïne.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a premièrement, c'est le pays qui est le plus développé d'Afrique, où il y a les meilleurs niveaux de revenus d'Afrique, donc c'est un marché de consommation pour l'héroïne et la cocaïne d'ailleurs. Et c'est aussi une plateforme de redistribution, parce qu'il y a une bonne infrastructure portuaire, il y a beaucoup de trafic portuaire entre l'Afrique du Sud et le reste du monde, et il y a aussi de bonnes connexions aériennes. Et on voit que l'Afrique du Sud est vraiment... il y a des saisies qui ont été faites et qui montraient que les routes sont très très nombreuses et sont très fractionnées, empruntent des directions qui sont parfois étonnantes. Et donc c'est un pays qui joue un peu un rôle clé pour le transit, mais dans des directions vraiment multiples.
Vous faisiez état de l'arrestation d'un Brésilien au Mozambique. Ce sont des autorités nationales ou des agences internationales? Je pense particulièrement à l'agence de l'ONU qui doit surveiller en principe les différents courants et les différents flux des drogues. Comment au niveau international et national, les autorités sont-elles en mesure d'agir et de contrôler?
Là aussi, comme souvent dans ce domaine-là, sur l'Afrique de l'Est et aussi sur l'Afrique de l'Ouest, les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme, ce sont les Américains. Il y a eu à peu près une dizaine d'années, le département d'État américain a commencé à dire que le trafic d'héroïne commençait à se développer très sérieusement en Afrique de l'Est. Très souvent, il y a eu des opérations conjointes qui ont été menées par les autorités américaines avec les polices des États concernés. Il y en a notamment eu une fameuse qui a conduit à l'arrestation du chef de la marine de la Guinée-Bissau il y a quelques années par la DEA au large de la Guinée-Bissau, où les agents de la DEA s'étaient fait passer pour des narcotrafiquants colombiens qui voulaient entrer en affaire avec lui. Et puis il y a eu des affaires célèbres au Kenya, la famille Akasha, qui était une famille kenyane de Mombasa, qui a été extradée aux États-Unis et qui a été jugée et qui vient d'être au début de cette année condamnée à 25 ans de prison aux États-Unis. Donc c'est souvent en fait le fait d'un travail conjoint entre le service américain en l'occurrence, mais peut être aussi les services d'autres pays de consommation en Europe, et puis des services de police locaux. À la fin de l'année dernière, il y a eu une très grosse saisie d'héroïne au large du Mozambique. Plus d'une tonne d'héroïne a été interceptée. Cette interception a été faite par la marine mozambicaine sur des renseignements américains. Donc c'est toujours des coopérations.
Toujours des coopérations. Merci Thierry d'avoir été par téléphone et de nous avoir apporté ces analyses ou ces éclaircissements sur l'Afrique subsaharienne en tout cas. Et revenons en Europe avec vous, Stéphane Quéré. Vous nous expliquiez un peu plus tôt dans cette conversation le rôle des grands ports un peu partout en Europe, et singulièrement s'agissant du marché français, le rôle du Havre, mais aussi de Marseille. Comment est-ce que les autorités, qu'il s'agisse de la police, des douanes ou des autorités judiciaires, sont-elles en mesure de coopérer avec leurs homologues européens pour surveiller, même en partant de pandémie où les transports et les échanges sont malgré tout ralentis, pour surveiller ces routes des drogues diverses?
Alors, on a quand même une grosse coopération internationale policière bilatérale. On a des agents en poste, notamment à Madrid ou sur la côte à Costa del Sol espagnole ou en Italie. Donc on a des rapports comme ça bilatéraux assez constants et assez réguliers. On a évidemment des structures supérieures, notamment Europol, qui gère la coopération, ou alors des structures plus spécialisées comme le MAOC, donc une espèce de centre d'analyse stratégique pour les interceptions par les armées en Atlantique et en Méditerranée pour intercepter les bateaux chargés de stupéfiants. Donc il y a des rapports bilatéraux et internationaux assez réguliers. L'ONUDC, par exemple, on en parlait. Donc l'ONUDC, Organisation des Nations Unies contre les drogues et le crime, a un programme de lutte contre le trafic par conteneur. Donc c'est de la coopération, c'est de la formation, notamment dans les pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Donc tout ça existe. Le problème, c'est que ces administrations entre guillemets internationales reposent sur des administrations locales. Alors on met de côté les inimitiés géopolitiques entre tel ou tel pays, mais tout ça, ce sont des administrations lourdes et lentes. Donc c'est très difficile à faire bouger, mais ça bouge. En face de deux, on a des organisations criminelles extrêmement réactives, extrêmement mouvantes, qui se réinventent à tout moment, qui testent des nouvelles routes, qui réactivent d'anciennes, et parfois qui cumulent les anciennes et les nouvelles routes. Donc vous voyez, on a un mammouth lent, long, mais qui bouge, et puis on a des gens qui sont très réactifs en face parce que c'est leur argent et que voilà, il faut être très réactif pour gagner encore plus d'argent.
Mais pour s'en tenir au cas français, on sait bien que à chaque saisie, pour des raisons que l'on comprend, il est fait grande publicité sur les quantités que les policiers ou les douaniers appréhendent. Mais on se dit à chaque fois que ce sont des quantités absolument dérisoires par rapport aux torrents qui circulent au même moment sur le marché. Et encore une fois, et bien évidemment, c'est le cas dans tous nos pays.
Oui, alors, on a aussi, il faut bien le reconnaître, il y a quelques faits divers qui l'ont bien marqué, on a aussi toujours une guerre police-gendarmerie-douane. Alors, sur le terrain, moins, mais en haut niveau, régulièrement, on voit qu'il y a des petits problèmes. On a quand même aussi des bonnes nouvelles, c'est-à-dire la mise en place depuis quelques années des GIRS au niveau de la justice. Donc ce sont des juridictions interrégionales spécialisées, donc qui sont chargées de gérer les gros dossiers de crimes organisés, donc évidemment les stupéfiants, donc avec des gens spécialisés à l'intérieur qui sont connectés sur les grosses affaires, notamment de stupéfiants. Donc tout ça bouge. On a aussi création au niveau de la police d'une structure antimafia qu'on appelle le CIRASCO, qui a un peu de mal à se mettre en place et à monter en gamme. Mais voilà, donc ça existe, tout ça monte en gamme petit à petit. Hein. Je vous ai dit, c'est long, c'est lourd, c'est lent, mais on y arrive petit à petit.
On y arrive petit à petit, mais ce qui est certain, Marie-Geoffrey Roustide, c'est que pendant ce temps-là, les consommateurs, eux, prolifèrent. Vous nous disiez à juste titre au début de cette émission que en France et le gouvernement vient encore de renforcer en principe une batterie de mesures pour tenter de décourager les consommateurs de cannabis, alors que le taux de consommation en France est à peu près le plus élevé d'Europe, même si on a la politique la plus répressive. Néanmoins, vous appartenez à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Est-ce que l'on peut dire que véritablement le combat est totalement inégal entre des fournisseurs dont Stéphane Quéré vient de rappeler l'agilité, la capacité d'adaptation, et notamment par ces temps de pandémie, et un marché de consommateurs qui trouvent aussi toutes sortes de moyens de contourner à la fois la loi et les difficultés d'approvisionnement ou même parfois les difficultés du marché lui-même, ne serait-ce qu'en termes de prix.
Alors effectivement, le combat est inégal, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a aucune arme à mettre en place. Et moi, je trouve que là, enfin, la politique française, en fait, elle se trompe de cible en mettant en place ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire une amende forfaitaire. Le gouvernement s'attaque aux consommateurs, sanctionne les consommateurs en affirmant publiquement que ça va servir à sanctionner les trafiquants, donc ce qui est complètement erroné. Ce qu'on sait, c'est que les trafiquants sont particulièrement inventifs. Ça, on l'a vu tout à l'heure, trouvent toujours des moyens de contourner la loi. Par exemple, sur les nouveaux produits de synthèse, hein, c'est très révélateur. Chaque fois qu'un produit de synthèse est identifié, par exemple, par l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, le produit va faire l'objet d'une législation et être interdit. Deux jours après, il y a une petite molécule qui change et le nouveau produit est à nouveau sur le marché. Il faut relégiférer. Par contre, si effectivement le combat contre le trafic est compliqué à mettre en place, les armes dont on dispose, c'est quand même des armes pour limiter les risques liés à la consommation. Et donc, on a des modèles qui fonctionnent très bien, comme le modèle de réduction des risques, hein, qui a permis de lutter très efficacement dans les années 80-90 contre la transmission du VIH, par exemple, chez les usagers de drogue. On sait que les politiques de prévention peuvent aussi avoir leur efficacité quand elles sont bien menées. L'Islande est très révélateur à cet égard. En France, comme je le disais, on a une politique très répressive qui ne fait pas baisser la consommation chez les jeunes. L'Islande a décidé de mettre en place un modèle complètement différent, c'est-à-dire de s'attaquer aux causes de la consommation, à l'ennui des jeunes, au manque d'insertion sociale, au manque d'activité. Et donc, en fait, au lieu de mettre de l'argent sur la répression, ils ont mis beaucoup d'argent sur les activités culturelles, sportives des jeunes. Et donc, l'Islande était un des pays d'Europe où il y avait les plus hauts niveaux de consommation de drogue et d'alcool il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ils ont quasiment éradiqué la consommation de produits psychoactifs illicites et licites chez les jeunes. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a des solutions qui existent, en tout cas pour limiter les risques liés à la consommation. Personnellement, je trouve que ce serait intéressant, en tout cas, de se centrer plutôt sur ce type de mesures plutôt que de sanctionner les consommateurs en pensant que ça va avoir un effet sur le trafic, alors que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le trafic continue à prospérer.
Et donc là, il y a une sorte d'exception française. Gaspard Estrada.
Oui, je voulais rajouter que je pense qu'il y a un autre élément qui est fondamental, c'est s'attaquer au flux financier. Et parce que c'est en s'attaquant aux flux financiers, et notamment les flux financiers légaux qui sont utilisés par les réseaux mafieux, qu'on peut s'attaquer efficacement à ce fléau. Il ne faut pas oublier qu'une banque comme HSBC a plaidé coupable de laver des centaines de millions de dollars pour des cartels mexicains, et que cela s'est fait vraiment avec donc l'acceptation des autorités américaines, qui n'ont pas pris des mesures beaucoup plus dures vis-à-vis de HSBC. Mais HSBC, c'est une banque parmi d'autres, puisque le réseau financier international accepte de laver des milliards de dollars en provenance des cartels de la drogue. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le G7, en 89, avait créé le GAFI, justement pour s'attaquer aux flux financiers, pour attaquer les questions liées au terrorisme, mais également les questions de corruption et de blanchiment d'argent liées au cartel de la drogue. Or, il n'y avait pas eu réellement d'action sur ce plan-là, et c'est là où je pense que les États, la régulation pourrait faire la différence.
David Weinberger, la régulation nationale, la régulation internationale, on sait que l'OCDE en particulier travaille sur la fiscalité. La fiscalité est une autre manière de tamiser, en quelque sorte, ou en tout cas d'essayer d'appréhender les flux financiers en question. Quel est le rôle de ce qu'on appelle le dark web ? Donc, on connaît tous Internet, Mais il s'agit donc de l'état profond, si j'ose dire, du web. Et là, d'après ce que l'on peut lire, où les gangs, les réseaux, les mafias de la drogue l'utilisent en particulier pour échapper aux mesures au système de contrôle des États ou des agences internationales.
Oui, parce que le dark web rapidement permet à tout à chacun et aux narcotrafiquants d'utiliser un internet qui est quasiment pas contrôlé. Donc effectivement, ça crée des opportunités criminelles qui ont été utilisées pour tout type de crime. Hein. Ça va du cambriolage, de l'assassinat, au trafic de stupes.
Et le trafic d'êtres humains. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes organisations qui
tout à fait
qui procèdent aux mêmes.
Mais on s'est rendu compte qu'en termes de drogue, en fait, le dark web aujourd'hui se limite grandement à de la vente au détail. En revanche, et je rejoins le point sur le blanchiment d'argent, les crypto-monnaies, qui sont des monnaies qui passent par les dark web et qui sont difficilement traçables, sont utilisées pour transférer de l'argent de manière discrète. Ceci dit, ce qui est très intéressant, enfin, de mon point de vue, c'est que ces crypto-monnaies sont fragiles puisque des hackers, des informaticiens peuvent carrément vous voler l'argent sur vos comptes virtuels.
Il y a eu quelques affaires en Australie, notamment.
Oui, ou aux États-Unis ou ailleurs. Et a priori, les gros comptes de narcotrafiquants sont un peu frileux pour utiliser le dark web et ses crypto-monnaies sur des grosses sommes, parce qu'ils ont quand même peur de se faire voler leur argent.
Donc ils préfèrent encore les sacs de billets, comme on voit ça, comme on le voit assez volontiers au moment des saisies.
Des sacs de billets, avec aussi la petite astuce qui est d'utiliser la compensation, ce qu'on appelle le hawala, et qui est le système ancestral bancaire qui repose sur la confiance. On ne transfère plus l'argent, mais on passe des coups de fil et l'argent va être compensé de l'autre côté de la planète.
Eh bien, merci à tous pour cette exploration, planétaire. Des nouvelles routes et des anciennes routes des narcotrafics partant de pandémie, même si on se rend bien compte que la réalité échappe à beaucoup de ces contrôles et même de ces analyses. Merci à vous, Marie-Geoffrey Roustide. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil scientifique de l'Observatoire européen de drogue et de toxicomanie et coordinatrice de la Global Drug Survey, la première enquête internationale sur les conséquences de la crise sanitaire auprès des consommateurs de drogue. Merci à vous, David Weinberger, sociologue à l'INHESI. Spécialiste, on vient de le vérifier, de la géopolitique des drogues. Gaspard Estrada, vous dirigez l'Observatoire des politiques d'Amérique latine et des Caraïbes. Et nous avions au téléphone, et je les en remercie, Stéphane Quéré, criminologue, et Thierry Vircoulon. On retrouve d'ailleurs dans la revue Esprit un long papier de Thierry Vircoulon sur les voies multiples de l'Afrique. Voilà, la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Anthony Thomasson, Hugo Boursier a préparé cette émission, et comme chaque samedi, eh bien voici Hervé Gardette. Très bon week-end.